Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et tous, bienvenue, oui, dans RTL Soir. On est ensemble jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match, comme chaque samedi, avec Christian Olivier. À la une ce soir, deux avalanches mortelles en fin de matinée en Savoie, dans les secteurs de Valloire et de Bourg-Saint-Maurice. Le bilan est lourd, 7 morts parmi deux groupes de randonneurs à ski surpris par ces coulées de neige. Il n'y a qu'un seul survivant. Une mise en garde avait pourtant été lancée face au risque d'avalanche particulièrement élevé en ce moment. Duel à distance déjà entamé dans les Hauts-de-France avec l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti pour les régionales en tête de liste dans le Pas-de-Calais. C'est le département que lorne Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La présidente du RN évoque l'obsession du ministre de la Justice à son égard, Éric Dupond-Moretti, qui a fait le déplacement à quelques kilomètres de là, à Lens, aujourd'hui. Le sommet social européen à Porto, les 27 ne sont pas vraiment chauds pour la levée des brevets des vaccins. Ils demandent l'ouverture des exportations, mais ils commandent 1,8 milliard de nouvelles doses à Pfizer. En marge du sommet, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux forces de l'ordre après le meurtre d'un policier à Avignon mercredi. Et dans le village de ce brigadier, les habitants ont exprimé aujourd'hui toute leur tristesse. Les commémorations du 8 mai 45, en petit comité pour la deuxième année consécutive. Emmanuel Macron, tout juste rentré de Porto, président ce moment même. La cérémonie à Paris, qui va l'amener sous l'Arc de Triomphe, mais sans public. En revanche, à Bayeux, en ce 8 mai, eh bien, les opposants au projet de parc sur le D-Day ont manifesté leur hostilité. C'était devant le cimetière militaire britannique. La Belgique nous offre aujourd'hui un avant-goût du 19 mai, avec depuis ce matin des terrasses de cafés et de restaurants à nouveau ouvertes après 7 mois de fermeture. La météo plutôt maussade chez nos voisins et les règles sanitaires strictes n'ont pas gâché la fête. Le football, avec la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est fait, c'est officiel, jusqu'en 2026. La suite de la 36e journée de Ligue 1, cet après-midi, Nantes a largement dominé Bordeaux, 3-0. Les Girondins ne sont pas tirés d'affaire. Et puis depuis 17h, Lyon, toujours en course pour la Ligue des Champions, reçoit Lorient. Où en est-on, Raphaël Vantard ?
0-0 ici dans ce début de deuxième mi-temps avec des Lyonnais pour le moment pas à la hauteur de l'enjeu, hein, c'est-à-dire le besoin impérieux d'une victoire pour passer devant Monaco et leur mettre la pression dans la course à la Ligue des Champions toujours. Donc 0-0 ici entre Lyon et Lorient.
Merci Raphaël, on fera un nouveau point dans 20 minutes environ. Dans ce journal également, on ira dans les Landes où pour ce premier week-end sans limite de déplacement et sous le soleil, il y avait beaucoup de monde sur les plages. Mais attention, parce que pour demain, Valérie Quintin, ça va déjà tourner à l'orage.
Oui, très très rapidement. D'ailleurs, les températures vont monter, ce qui va provoquer des orages franchement costauds et notamment dans le sud-ouest dans le courant de l'après-midi. Dès le matin, ça pourra claquer localement dans le nord et entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et puis dans l'après-midi, c'est toute la façade ouest qui sera concernée par ces orages. Des orages donc très forts en Aquitaine, près des Pyrénées, avec de la grêle localement, de brusques rafales de vent jusqu'à 100 km/h en pointe pour l'OTAN notamment. À l'est, pendant ce temps-là, le soleil devrait se maintenir. Il sera peut-être un petit peu paléchon l'après-midi, mais ça devrait tenir quand même avant que les orages n'arrivent en soirée et au cours de la nuit suivante. Attention, toujours dans les Alpes du Nord, le risque d'avalanche très élevé persistera. Tout cela avec des températures qui continuent de grimper. On aura demain après-midi une fourchette de 16 à 28 degrés entre Brest et Nevers, 22 pour Nice, 23 degrés à Toulouse, 26 à Grenoble et pas moins de 27 degrés à Lille, à Paris et à Colmar.
Merci Valérie. Le Quintet, c'était à Lyon-Paris, 4, 15, 10... 14 et 5. Et puis rendez-vous comme chaque samedi avant 18h30 avec Mon Métier, Ma Passion, Armelle Lévy, avec ce soir des effluves de croissants et de viennoiseries.
RTL Soir, Vincent Parisot.
7 personnes ont donc trouvé la mort aujourd'hui dans deux avalanches qui se sont déclenchées en fin de matinée en Savoie, dans le secteur du col du Galibier et dans celui du Mont Pourri. Deux groupes de randonneurs à ski ont été emportés et on ne compte finalement qu'un seul rescapé, Nerissa Emani.
Oui, effectivement, une première avalanche s'est déclenchée en fin de matinée à Valloire. 4 personnes ont été ensevelies, elles sont décédées. Originaires des environs de Grenoble, elles avaient entre 42 et 76 ans. Un cinquième randonneur a survécu. Il a été transféré à l'hôpital de Modane, encore sous le choc. Une deuxième avalanche a fait 3 morts vers 14h à Villaroger, près de Bourg-Saint-Maurice. Deux des randonneurs avaient 35 et 38 ans. La troisième victime, une femme, n'a pas pas encore été identifié. Tous seraient originaires du Jura. Il fait beau et chaud aujourd'hui en Savoie et c'est pourquoi les autorités ont mis en garde hier contre un risque d'avalanche très élevé tout le week-end. Pascal Bollo, le préfet de Savoie.
Vraiment, j'enjoins à tous les randonneurs potentiels d'éviter de sortir en haute montagne parce que c'est particulièrement dangereux. Le redoux actuel fait que les plaques de neige peuvent très facilement partir sous le poids des randonneurs.
Et le préfet qui précise qu'une enquête va être ouverte, elle a été confiée au parquet d'Albertville.
Merci beaucoup Nerissa et Mani, merci beaucoup.
Vincent Parisot, RTL Soir.
C'est un duel annoncé et qui pourrait faire des étincelles, même si c'est un duel à distance. Dans les Hauts-de-France, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, ne sera pas tête de liste à l'échelle de la région, mais il représentera la majorité dans le département du Pas-de-Calais. C'est justement le département que lorgne Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La présidente du Rassemblement National n'a d'ailleurs pas tardé à déclencher les hostilités. Et ce bras de fer à distance est donc déjà engagé, puisqu'Éric Dupond-Moretti est apparu en début d'après-midi sur un marché de Lens. Retour sur cette première journée de duel dans le Pas-de-Calais, Antoine Decarne.
C'est dans son fief d'Hénin-Beaumont que Marine Le Pen a lancé la journée avec les commémorations du 8 mai. Une brève apparition suivie d'une déclaration sur l'entrée en campagne du ministre de la Justice.
Vous savez, j'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de défier le Rassemblement National et ils sont tous assez rapidement repartis, plutôt humiliés par l'expérience.
Pourtant, vers 16h30, Éric Dupond-Moretti, veste de velours marron et chemise blanche, est venu faire le marché à Lens, au cœur du quartier éminemment populaire de la grande résidence.
Bonjour. Bonjour. Un petit tract.
Allez, monsieur, débarrassez-vous de Marine.
Accompagné par le chef de file d'En Marche pour les régionales, Laurent Pietraszewski, Éric Dupond-Moretti a dévoilé ses intentions contre le parti de Marine Le Pen.
Qu'est-ce que vous comptez faire pour les élections ?
Me battre, monsieur.
Oui, dans quel sens ?
D'abord, j'aimerais bien virer le Front National de ces terres. Vous voyez ? Moi, je les connais bien. Vous savez, je suis né ici, à Maubeuge. Je trouve que ces terres-là, elles méritent bien mieux que ce que nous propose le Front National, qui est le contraire de l'idée que je me fais de la démocratie, par exemple.
À l'aise, Éric Dupond-Moretti s'est arrêté à de nombreuses reprises avant de partir grimper en haut du fameux terril de Los Angoël. Avec ses colistiers, il a pris de la hauteur sur un Pas-de-Calais où il compte combattre Marine Le Pen.
Reportage signé Antoine Decarne. Emmanuel Macron préside en ce moment même les commémorations de la victoire du 8 mai 45. Sans public, mais en présence d'un nombre restreint d'autorités civiles et militaires. Emmanuel Macron, tout juste rentré de Porto, où s'est déroulé le sommet social européen. Il a beaucoup été question de vaccins. L'Union européenne, d'ailleurs, ne fait pas preuve d'un grand enthousiasme sur la levée des brevets proposés par Washington. Les 27 qui préfèrent ouvrir les exportations se disent tout de même prêts à en discuter si des propositions concrètes sont avancées. Mais le président du Conseil, Charles Michel, précise que sur la question de la propriété intellectuelle, les Européens ne pensent pas que ça puisse être la solution magique. En tout cas, l'Europe annonce qu'elle passe commande d'1,8 milliard de doses supplémentaires à Pfizer-BioNTech. Le contrat inclut une commande ferme de 900 millions de doses, une option pour 900 millions supplémentaires, des livraisons prévues dès cette année et jusqu'en 2023. Et puis en marge de ce sommet de Porto, Emmanuel Macron est revenu sur la mort du brigadier Éric Masson, tué par balle mercredi sur un point de deal dans le centre d'Avignon. Et il a porté tout son soutien aux forces de l'ordre.
Il est évident d'abord que c'est la nation tout entière qui est aux côtés de la famille de notre policier. Et je veux ici leur apporter notre affection, notre soutien. Et apporter aussi notre soutien sans faille à toutes nos forces de sécurité intérieure. C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle. Et donc il nous faut continuer d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous de la réalité de la société et de son évolution, qu'aussi les équipements, la protection des interventions soient au rendez-vous. C'est ce à quoi œuvre le gouvernement. Et ces sujets sont trop importants pour notre société. Et la considération que j'ai à la fois pour M. Masson, sa famille et tous ses collègues font que je n'ai envie de tomber dans aucune forme d'instrumentalisation nauséabonde.
Voilà, propos recueillis par l'envoyé spécial d'RTL à Porto, Vincent Derosier. Emmanuel Macron qui apporte donc, vous venez de l'entendre, son soutien sans faille à toutes les forces de sécurité, 3 jours après la mort de ce policier à Avignon. Un hommage lui sera rendu demain, mais dès aujourd'hui, à Bédaride, le village où habitait le brigadier Masson, les habitants ont exprimé leur tristesse et leur émotion. Reportage Samia Belbachir.
Il était un voisin, un ami, une connaissance, un bédaridé à qui ils sont venus rendre hommage aujourd'hui. Amandine connaît le frère du brigadier Éric Masson.
Ah ben bédaride, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Et puis bon, on est un village un peu chauvin, quoi. Donc Ça touche un bédaridé, donc ça touche tout un village.
Mathilde, elle, connaît ses enfants.
Je gardais ses deux filles quand j'étais à l'école, oui.
Et tous se sont rassemblés sur la place de la mairie pour une chose.
Rendre hommage à un fonctionnaire d'État qui a été assassiné.
Pour rendre hommage au jeune de Bédaride qui est décédé à cause d'un assassin qui, j'espère, sera vite retrouvé et puni comme il se doit.
Qu'est-ce que vous ressentez
De la haine et de la colère et beaucoup de tristesse.
Un hommage placé sous le signe de l'émotion. Jean Bérard est le maire de Bédaride.
De la révolte, de la colère et de la tristesse. Je crois qu'on partage tout ça. Manifestation spontanée de tous les gens qui sont choqués par ce qui s'est passé il y a quelques jours et qui leur enlève un enfant du pays qui était discret et dévoué.
Demain après-midi, ce sera au tour des forces de l'ordre de rendre hommage à Éric Masson devant le commissariat d'Avignon.
Reportage de Samia Belbachir, donc à Bédaride, le village où habitait le brigadier Masson. Courte pause. Dans un instant, une petite bière en terrasse. Oui, mais de l'autre côté de la frontière belge.
RTL Soir. RTL Soir, Vincent Parisot.
Nos voisins belges ont donc vécu aujourd'hui ce que nous sommes nombreux à attendre pour le 19 mai prochain, la réouverture des terrasses, des cafés et des restaurants. Certes, cela s'est fait sous un ciel plutôt maussade, avec des règles sanitaires très strictes, mais évidemment pas de quoi bouder son plaisir d'une petite mousse entre amis. Reportage Vincent Chevalier.
On active les commandes, les amis.
Une masse 25. Il s'en parle de nous, s'il te plaît.
Le fracas des verres, les commandes hurlées, le rush des grands jours. Tout ça avait beaucoup manqué à Christophe, barman à la cuve à bière.
Ce matin, en me levant, j'en avais déjà des frissons. On attendait tellement cette reprise depuis 7 mois que ça démangeait, en fait. On attendait ça avec impatience et voilà, c'est fait.
Et sur les tables, évidemment, pas beaucoup de verres d'eau.
La spécialité de la cuve à bière, c'est la Saint-Hubertus qui cartonne à fond. Voilà, qui cartonne, et c'est magnifique.
Bravo, monsieur.
Sur la terrasse, les tables vides deviennent rares. Pour Sophie, il était impossible de manquer cette réouverture.
On l'attendait, donc on est là, pluie ou pas. Voilà. On est là, fidèle au poste. Hein.
Un jour doublement spécial pour Xavier, venu exprès de France pour voir sa famille.
Ah, ça fait plaisir. C'est mon anniversaire aujourd'hui en plus. Du coup, super content. J'ai mangé mes frites, j'ai bu ma bière. Je suis aux anges, j'ai manqué le soleil.
JF, Benjamin et leurs copains sont quatre à table, la limite fixée par les autorités. Mais qu'importe, il y a déjà une sensation de liberté retrouvée.
Le plus important, c'est de retrouver les copains et d'avoir la bière. Hein. Bon, on attend, mais elle arrive.
On voit le bout du tunnel, quoi. C'est un peu le premier pas, quand même. On espère le retour à la vie normale, quand même.
Pas encore tout à fait. Les établissements doivent fermer à 22h, même si le couvre-feu a été levé hier soir en Belgique.
Un reportage en Belgique, signé Vincent Chevalier. En France, il faudra donc attendre encore 11 jours hein, pour aller en terrasse. À noter d'ailleurs que Jean Castex appelle les plus de 55 ans qui ne sont pas vaccinés à le faire, en particulier avec du vaccin AstraZeneca. Le Premier ministre s'est rendu aujourd'hui dans le centre de vaccination de la Défense. Je rappelle que lundi, tous les plus de 50 ans vont pouvoir recevoir une première dose. Mais ce samedi, c'était aussi le début du premier week-end sans la restriction de déplacement des 10 km. Il y avait d'ailleurs du monde sur les routes hier soir. Alors évidemment, avec le beau temps chaud annoncé dans le sud-ouest, eh bien les plages des Landes ont attiré les amateurs de soleil, de sable et de vagues. Reportage avec un air de vacances à Contis, Denis Grandjou.
Oui, premier reportage de l'année en short et première approche vers le théâtre des opérations en tong. Direction la petite rue commerçante qui mène à la plage de Contis. Seule la boutique de surf est ouverte en click and collect et c'est
Nina
qui nous explique le fonctionnement.
Ils appellent en fait s'ils ont des demandes particulières et puis ensuite moi je vais chercher le matériel et voilà, je leur donne, ils restent dehors.
Un peu plus loin, Cindy est derrière le comptoir de sa brasserie. Elle sert des boissons fraîches et des sandwichs.
Pour un temps aussi ensoleillé, il y a moins de demandes qu'on aurait cru, mais on n'a pas trop à se plaindre. Hein.
René lui propose des glaces et des churros. J'ai choisi les churros.
La pâte à beignets, c'est bon, il y a du sucre.
Et ça pour le body summer, c'est bon, je peux le prendre.
Ça, vous pouvez le prendre pour le body summer, vous allez voir. Vous n'avez pas coulé.
Allez, fini les tongs, place dans ce reportage à la partie plage. Cette fois, j'ai les pieds dans l'eau et vous allez l'entendre, les gens sont plutôt heureux.
Bah, les pros, c'est qu'on y est, c'est bon.
Beau temps, du monde, 30 degrés, le ciel est presque bleu, la mer est belle.
Les vagues.
La fête, ouais, c'est bien, c'est bien.
Bon, je vous laisse faire faire.
Merci.
Oui, on se sent libre, ça fait super longtemps qu'on a attendu ça et ça fait du bien.
Est-ce que je peux vous poser une question?
Oui, oui, allez-y.
Est-ce que vous pensez que les churros avant l'été, c'est bon ou c'est pas bon en fait?
Pourquoi vous en avez mangé?
Absolument pas.
Reportage signé Denis Grandjou qui, vous l'avez compris, fait vraiment un métier difficile. Nous sommes donc le 8 mai, jour de la commémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Commémoration d'ailleurs en cours hein, avec Emmanuel Macron à Paris sur les Champs-Élysées et à l'Arc de Triomphe. Et ce n'est pas un hasard si les opposants au projet de parc à thème sur le débarquement et le D-Day ont choisi cette date du 8 mai pour manifester leur inquiétude. Ils se sont rassemblés aujourd'hui devant le cimetière militaire britannique de Bayeux. Esteban Pinel.
Des deux côtés de la route, devant les sépultures militaires, les opposants brandissent plusieurs pancartes.
Non au D-Day des Landes et puis respect aux héros, évidemment. Non à la surenchère touristique.
D-Day Landes, c'est comme ça que le projet est baptisé par ses citoyens, hostiles à ce parc bâti autour d'un spectacle grandeur nature avec des tribunes mobiles fixées sur un rail. Catherine, membre d'un comité d'opposition, a fait ses comptes.
Ça va obliger à artificialiser quand même 35 hectares de terres agricoles. Ça va faire une grosse pollution et ça déstabiliserait toute l'industrie hôtelière du coin. Et puis peut-être ça ruinerait les musées aussi.
À ces considérations s'ajoute un débat moral. À plus de 85 ans, une habitante gravement blessée en 1944 s'indigne.
C'est une honte de vouloir faire ce parc, ce business sur la mémoire de nos héros. On essaie, nous, qu'on a vécu ça dans notre chair, de transmettre quelque chose. Ils vont mettre une autre ambiance de jeu, de n'importe quoi. Ça va fausser tout.
À l'approche des commémorations du 6 juin, les comités promettent de se mobiliser contre ce projet au contour encore très flou.
Reportage à Bayeux, signé Esteban Pinel. Allez, on ouvre la page sport avec le football. La suite de la 36e journée, tout d'abord. Cet après-midi, Nantes a très facilement battu Bordeaux 3-0. Les Canaries ont donc renforcé leurs chances de maintien en Ligue 1 contre une équipe des Girondins en pleine déconfiture à deux journées de la fin du championnat. Les Bordelais qui ne savent pas de quoi sera fait leur avenir ne sont pas tirés d'affaire d'ailleurs pour le maintien. Écoutez l'entraîneur des Girondins, Jean-Louis Gasset. Il est très déçu que l'enjeu ait finalement empêché ses joueurs de se battre. Il est au micro RTL de Philippe Audouin.
Incompréhensible, passer de niveau pour certains joueurs la semaine dernière à ce niveau cette semaine. Il n'y a que la peur qui peut vous donner ça. On est faible mentalement, donc le moindre accro derrière, on lâche à la mi-temps, j'ai dit, on ne joue pas un match pour se sauver, on les regarde et on attend quoi ? La guerre, aujourd'hui, on ne l'a même pas faite, donc on ne peut pas parler de guerre, il n'y avait qu'un boxeur aujourd'hui.
Il n'y avait qu'un boxeur aujourd'hui. Voilà ce que dit Jean-Louis Gasset après cette nouvelle défaite des Girondins 3-0 face à Nantes. Depuis 17h, Lyon, qui est toujours en course pour la Ligue des Champions, reçoit Lorient. Tout à l'heure, à la mi-temps, il y avait 0-0, mais je crois que Lyon a marqué, Raphaël Vantard.
Exactement, but à la 53e signé Oussem Aouar qui revenait de blessure sur un très bon centre de Ryan Cherki, le milieu de terrain lyonnais qui donc ouvre le score, libère aussi son équipe tant la domination depuis lyonnaise est palpable hein, ici poussée par des supporters. Ce que vous entendez derrière moi, ce n'est pas une bande son, il y a beaucoup de supporters qui sont à l'extérieur du stade et donc qui poussent leur équipe et ça donne l'impression qu'on est presque dans un stade normal, presque comme avant, et en tout cas ça a l'air de pousser un petit peu les Lyonnais qui dominent largement cette rencontre et donc qui mène 1-0 ici alors qu'on joue la 64e minute de jeu.
Merci Raphaël, de toute façon on va vous retrouver dans quelques minutes dans On refait le match avec Christian Olivier. Puis la grosse info foot de la journée, eh bien c'est Neymar qui prolonge au Paris Saint-Germain, c'est maintenant officiel Philippe Sanfourche.
Oui, à 29 ans, le Brésilien s'engage pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025. Neymar ne retournera donc pas à Barcelone malgré le forcing de Messi. Il faut dire que peu de clubs peuvent désormais s'aligner financièrement sur les 3 millions d'euros de salaire mensuel versé au numéro 10 du PSG qui, pour ce montant, fait même l'effort de nous annoncer la bonne nouvelle en français.
Très content pour continuer avec Paris. Allez les gars.
Voilà, Neymar, ouais. Star des réseaux sociaux, produit marketing, mais génie à mi-temps, trop peu présent et décisif encore cette saison. On l'a vu face à Manchester City. Son entraîneur, Mauricio Pochettino, fixe l'objectif pour ce nouveau bail.
Le défi est...
Notre défi, c'est maintenant que nos joueurs au grand talent individuel se comportent en équipe, au service de l'équipe. Que nos talents individuels deviennent un talent collectif, c'est ça notre défi.
Autre dernier défi pour cette fin de saison, et pas des moindres, la prolongation désormais de Kylian Mbappé. Dossier loin d'être décanté, mais qui peut être facilité par cette annonce de Neymar.
Merci Philippe Sanfourche. Le rugby, la 23e journée du top 14, le Racing 92 a écrasé Clermont aujourd'hui. 45-19, et puis en Formule 1, Lewis Hamilton décroche sa 100e pole pour le Grand Prix d'Espagne qui partira demain à 15h. Une courte pause, et puis dans un instant, on vous amène les croissants avec Armel Lévy.
RTL Soir.